Elle disait, si on s'occupait de nos business comme on s'occupe de nos relations, business will be dead. Si on s'occupait de nos business comme on s'occupe de nos relations, il n'y aurait plus de business. Et la réalité, c'est que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Après un an de mariage, ma perception, c'est que la patience, évidemment, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a aucune chance, aucune, pour que vos problématiques, elles se résolvent dans le mois. Ça n'arrivera pas. S'aimer en Allah, c'est faire les choses pour Allah. C'est faire les choses pour Allah et c'est purifier au maximum son intention et diriger notre volonté, notre intention au maximum vers lui, vers notre créateur. Lui, il a l'impression, ça fait plus de 20 ans qu'il est marié ou bientôt 20 ans qu'il est marié et franchement il a l'impression d'être amoureux comme au premier jour et qu'il est toujours à sa première année de mariage. Et l'une des principales raisons qui fait qu'il a ce sentiment-là, c'est qu'il est satisfait de ce qu'il a.
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage et que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix et l'amour rayonnant soient sur chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon début de semaine, bienvenue à Tarala. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux auditeurs. Vous êtes nombreux, mashallah, il y a eu une vague, vraiment une très belle vague de nouveaux abonnés qui est liée, je le crois, à ce mois béni. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé, mais dans les classements des podcasts, c'est magnifique à voir parce qu'il y a énormément de podcasts qui sont portés par des musulmans. Mais surtout, il y a énormément de podcasts qui parlent d'Allah, de sa parole, de son amour, de sa puissance. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment la preuve que les musulmans ont conscience que c'est un mois dans lequel il est bon de changer ses habitudes et on demande vraiment à la Spratala que chacun d'entre nous puisse mettre en place de nouvelles habitudes. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, bah, c'est pas trop tard. Hein. Et puis qu'on puisse surtout les conserver le plus longtemps possible après Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Donc vraiment, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver ici. Et je suis heureuse d'aborder ce nouveau sujet avec vous parce que ce sujet a été l'occasion pour moi de reposer mon intention pour le Halal Love. Dans le premier épisode que j'ai enregistré avec Amar du site MyNifs, il m'avait dit dans notre conversation que c'était dur de renouveler tout le temps son intention et de se rappeler pourquoi on faisait les choses. Mais je pense que j'avais pas du tout compris la force de ce propos. C'est extrêmement dur, surtout quand on est entrepreneur et qu'on travaille sur des sujets qui nous tiennent tellement à cœur. C'est super dur de se rappeler qu'en fait, on travaille pour Allah. Allah, c'est notre boss et qu'on ne fait que ce qui plaît à Allah. Et le jour où Allah il nous demandera de faire autre chose, bah, élever des enfants ou fermer notre structure pour faire autre chose là où on est le plus utile, bah, il faudra le faire. Il ne faudra pas se dire « ouais, mais non, moi j'ai trop envie, c'est mon projet, etc. » C'est super dur. Donc, travailler cet épisode-là, ça m'a permis de renouveler un peu mon attention. Alhamdoulilah, j'aimerais vraiment ce partage de me rappeler à chaque fois pour qui je fais ce podcast, à savoir pour lui, et pourquoi je le fais, à savoir vous délivrer un maximum d'informations, mais je vais en parler dans un instant. Aujourd'hui, on va parler des bons conseils que l'on m'a donnés avant de me marier. C'est soit des conseils qu'on m'a donnés vraiment à moi directement, soit c'est des conseils que je suis partie glaner sur les internets, comme on dit. Mais en tout cas, c'est des conseils qui m'ont été extrêmement utiles et que, sincèrement, j'utilise au quotidien dans ma vie. Je pense qu'il y en a un d'ailleurs où je détaille un peu comment j'utilise dans ma vie. Mais ce n'est pas juste des conseils où je me suis dit « Ah, c'est super !» et en fait, je ne les ai jamais utilisés dans la vraie vie, je ne les ai pas mis à contribution. Non, pour moi, un bon conseil, c'est un conseil où c'est révélateur parce que une fois qu'on l'a appliqué, on voit que ça marche. Pourquoi j'ai choisi ce sujet-là ? La première chose, c'est parce que on a passé le cap des un an de mariage, alhamdoulilah, avec mon époux. Je pense honnêtement que cette première année, elle n'aurait pas eu la même saveur sans la douceur des conseils qui m'ont été donnés. Vraiment. Je me dis que vraiment, Allah a répondu à mes douas en m'envoyant des personnes sages qui ont eu la gentillesse de partager avec moi leurs enseignements et leur expérience autour du mariage. Et je serais vraiment... ce ne serait pas une bonne chose de ma part que de ne pas repartager avec vous tous ces conseils qu'on m'a donnés. Alors, j'en ai sélectionné. Hein, là, il y a 3 conseils plus 2 leçons bonus que moi, je tire un petit peu de cette première année de mariage parce qu'il fallait faire un choix et que moi, quand je fais des épisodes solo, j'aime bien que ce soit pas trop long. Donc l'idée, c'était un peu limité. Mais si d'aventure, vous sentez que cet épisode, il vous plaît, que ça vous a apporté, bah, n'hésitez pas à me faire un petit mail et puis je réfléchirai éventuellement à faire une deuxième partie à cet épisode-là. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet, bah, c'est parce que en réalité, le bon conseil, partager les bons conseils, ben c'est le principe même du Halal Love, en fait. J'ai vraiment réalisé que c'était ce pourquoi j'avais créé ce podcast, pour réunir les bons conseils, les meilleures expertises, les enseignements les plus précieux autour du mariage, afin de faire trois choses. La première, c'est de renforcer les couples qui, je trouve, sont à la merci du temps, et je le comprends tout à fait. C'est-à-dire que très clairement, on court partout. L'éducation des enfants, ça prend énormément de temps. La pression financière, elle est là, elle est de plus en plus forte. Et Halal Love, ça se voit un petit peu comme une pause, comme un refuge, un endroit où les couples musulmans, ils peuvent vraiment glaner des informations qui sont précieuses pour solidifier leur couple. C'est-à-dire que moi, l'idée, c'est de vous faciliter un petit peu la tâche. Moi, je gère justement cette recherche d'informations qui est longue. Je gère le suivi des formations parce que c'est long aussi. Et derrière, je vous ramène un petit peu le sucre pour que vous puissiez, en le moins de temps possible, si je peux le dire comme ça, repartir avec des outils, des informations qui, je l'espère, Inch'Allah Ta'ala, vous serviront dans votre couple. La deuxième chose, c'est que ces conseils-là, ils sont utiles notamment pour préparer les célibataires au mariage et ainsi entrer dans le mariage plus serein et plus motivé que jamais, parce que clairement, de la motivation, il en faut pour que son mariage dure. Mais en fait, je dis pas ça pour faire peur, hein. Clairement, de la motivation, il en faut dans tous les pans de notre vie si on souhaite la mener au mieux. Et c'est une parenthèse que je fais. Parmi les conseils que je donne, il y a un conseil que j'ai reçu à travers une formation que j'ai suivie. Et alors, je peux vous dire que dans mon cercle privé, on se moque beaucoup de moi en disant « Oui, hein, Madina, elle fait que des formations. Madina Formation, c'est ça mon surnom. » Mais honnêtement, je suis désolée, mais les formations que j'ai suivies, elles m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Elles m'ont servi dans le mariage et je pense que je ne serais pas la même épouse si Avance pour Internat ne m'avait pas donné la chance d'écouter ces conseils-là avant le mariage. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Et puis, c'est aussi afin de construire une communauté qui est plus forte, qui est plus épanouie, plus reconnaissante envers Allah subhanahu wa ta'ala. On l'a redit avec Mariama dans l'épisode 59. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle de cet épisode ? Merci beaucoup pour toutes vos écoutes. L'épisode, il avoisine les 10 000 écoutes en moins de 2 semaines. C'est une grande joie. Mashallah. Et c'est un épisode qu'on a pris beaucoup, beaucoup de plaisir à faire. Donc, je vous remercie de votre écoute, de vos partages et de vos retours, parce qu'il y en a eu beaucoup, mashallah. Donc, comme on le dit avec Mariama, la famille, c'est un joyau. Et donc, comme tout joyau, ça demande un travail considérable pour le polir, pour le préserver des attaques extérieures. Mais on doit s'y préparer parce que Shaitan, il est là. Et il sait à quel point une société avec des familles qui sont fortes, c'est plus difficile à ébranler. Et là où il y a de la paix, là où il y a de l'amour d'Allah, Shaitan, il a beaucoup moins sa place, il a beaucoup moins de prise. Donc, j'espère profondément que Halal Love, ça servira aussi et ça sert aussi à ça. Et la troisième raison pour laquelle j'avais très envie de faire cet épisode, parce que le bon conseil, c'est un devoir en islam. D'après Tamim ad-Dari, radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, dit « La religion, c'est le bon conseil. An-Nasira, nous dîmes, envers qui ?» Il dit « Envers Dieu, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et envers l'ensemble de la communauté musulmane, rapporté par Muslim. » Donc le bon conseil, ça fait vraiment partie de notre engagement vers Allah. Et quelque part, on ne s'aide pas soi en gardant les bons conseils pour soi et on n'aide pas les autres non plus. C'est évidemment un rappel que je me fais à moi-même avant tout et qui me fait réaliser mes grands manquements. Donc vraiment, qu'Allah Ta'ala me réforme et qu'il nous réforme tous. Amin. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va commencer par le conseil numéro 1 que l'on m'a donné et que j'ai vraiment trouvé excellent. Ce premier conseil, c'est « Aimez-vous en Allah ». Qui m'a donné ce conseil ? Alors, ils sont plusieurs. Le premier à avoir donné ce conseil, c'est Ali Habibi dans le cadre de sa formation pour le mariage. Oui, Ali Habibi a une formation pour le mariage. Je l'ai suivi en octobre 2018, soit environ 5 ans avant de me marier, 4 ans et demi, 5 ans avant de me marier. Et je vous assure que 5 ans plus tard, 6 ans plus tard même, c'est des enseignements que je trouve toujours aussi précieux et qui m'accompagnent. Alors, je n'ai pas tout retenu, mais il y en a vraiment qui m'ont beaucoup aidée et peut-être dont je reparlerai un peu plus tard. Et dans le privé, les personnes qui m'ont partagé ce conseil-là, eh bien, c'est Walid et Fatira. Et d'ailleurs, ils vous l'ont partagé à vous aussi dans l'épisode 2. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille vivement, justement, de l'écouter. D'ailleurs, je pense que c'est l'un des épisodes les plus écoutés du podcast, subhanallah. Et la réalité, c'est que c'est aussi un conseil qui plus est que j'ai entendu de nombreuses fois dans les vidéos que j'ai visionnées avant de me marier. Et on m'a déjà demandé, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, c'est quoi s'aimer en Allah ? Et je trouve que c'est une excellente question. C'est quoi s'aimer en Allah ? Comment on fait pour mettre Allah au centre entre son mari et soi ? Et la réalité, c'est que c'est une question qui mériterait un podcast à part entière. Peut-être d'ailleurs qu'on en fera un. Mais là, je vais les développer en deux points majeurs et qui reviennent souvent. S'aimer en Allah, c'est faire les choses pour Allah. C'est faire les choses pour Allah et c'est purifier au maximum son intention et diriger notre volonté, notre intention au maximum vers lui, vers notre créateur. Alors attention, on peut faire des choses pour obtenir quelque chose en retour. L'amour de son conjoint, un service, un merci. Et une intention, ça peut soutenir plusieurs objectifs, on est d'accord. C'est pas humain de dire que j'ai toujours qu'un seul objectif. On est souvent, ça se dit pas, mais polyobjectif. Je pense que vous aurez compris l'idée. Mais clairement, le premier de ces objectifs doit être la recherche de l'agrément de l'amour d'Allah. Allah, ça doit être notre première, voire notre plus grande histoire d'amour. C'est à lui qu'on doit chercher à plaire finalement. C'est lui dont on doit chercher l'amour et la satisfaction en premier lieu. Pourquoi ? Parce que l'amour d'Allah, ça reviendra sur l'amour que l'on se porte entre époux. Franchement, c'est mathématique. C'est une expérience qui a été lue, testée, approuvée par beaucoup de monde, dont moi. Et à titre personnel, moi, quand j'aime Allah, vraiment, j'aime tout le monde, en fait. Et de surcroît, j'aime encore plus mon époux. Parce qu'en fait, subhanallah, aimer Allah, c'est le voir et le chercher partout. Et donc, c'est aussi le voir dans sa création. Vous savez, on dit souvent que contempler les étoiles, c'est contempler la création d'Allah et c'est se rendre compte de la grandeur d'Allah. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis très doué pour contempler la nature. Je ne l'ai jamais été. Par contre, j'aime beaucoup contempler les humains. J'aime bien les observer, j'aime bien comprendre qui ils sont. Et j'ai réalisé il y a peu, finalement, que c'était pour moi une manière de... Ça me satisfait et ça m'impressionne parce que je vois la grandeur d'Allah à travers la diversité de nos personnalités, à travers la profondeur de certains de nos sentiments, à travers les ramifications qu'il peut y avoir entre nos familles. Subhanallah, ça, c'est vraiment Allah qui a mis tout ça entre nous. Donc, c'est magnifique. Et quand j'aime que mon mari, de fait, mon amour, il est beaucoup moins rayonnant parce qu'il est uniquement dirigé vers mon époux. Donc, pour moi, s'aimer en Allah, d'abord, c'est ça. Et puis, s'aimer en Allah, c'est aussi et surtout se demander pour qui je fais l'action que je m'apprête à faire. Pour moi, pour mon mari, ou ma femme, ou pour Allah. S'aimer en Allah, c'est garder concrètement et quotidiennement à l'esprit qu'on fait les choses d'abord pour Allah, puis pour notre conjoint. C'est un point qui peut être très difficile à appliquer parce que la réalité, c'est que certains conjoints ou conjointes ne font pas preuve de bonté l'un envers l'autre, ça arrive. Mais c'est quelque chose dans lequel on a énormément à gagner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on fait les choses d'abord pour Allah, on est toujours, je reste un point, j'aime toujours, gagnant. Comme je dis, la paye, elle finit toujours par tomber. Vous savez, il y a des comptes cachés dans certains pays qu'on appelle des paradis fiscaux. Et moi, j'estime qu'il y a le paradis paradisiaque. Et dans ce paradis-là, on a un compte caché où Allah, il stocke pour nous toutes nos bonnes actions, tous nos efforts. Et en fait, c'est jamais, jamais, jamais perdu. Et c'est mieux en Allah, c'est vraiment ça. C'est garder à l'esprit que l'on fait les choses d'abord pour Allah et s'assurer que dans tous les cas, on sera rémunéré. Et moi, comment j'ai appliqué ce conseil dans ma vie ? Tout simplement me rappelant à des moments de mon mariage où l'envie de faire des efforts, elle est moins présente, soit parce qu'on a la flemme, soit parce qu'on est excédé, voire on est blessé, de se rappeler pourquoi je me suis mariée et puis surtout pour qui je me suis mariée. Et vraiment, subhanallah, quand on se rappelle ça, ça permet vraiment de dissiper beaucoup de tensions. Parce que vous allez voir, dans le quotidien, il y a beaucoup de tensions qui sont reliées à des petites choses. Ça fait partie du deuxième ou du troisième conseil que je m'apprête à partager avec vous. Mais clairement, quand on se rappelle pour qui on s'est marié, ça permet vraiment à notre nafs de se redire « Ah mais en fait, par contre, pour Allah, je crois quand même que je suis capable de faire certains efforts. Il n'y a pas de raison que je ne les fasse pas. » Moi, quand je me dis « Non, Madina, pour Allah, tu le fais ou pas ?» Tu le ferais pas pour Allah ? Eh bien, subhanallah, lorsque je me dis ça, je me réponds à moi-même, évidemment, pour Allah, je peux bien le faire, c'est évident. Et sincèrement, les moments où j'étais le moins encline à céder et où j'ai fait ce pas de plus par amour pour Allah, eh bien, c'est à ces moments-là où j'ai été le plus récompensée et le plus vite, subhanallah. Et dans les moments moins intenses, où c'est juste que par exemple on a la flemme de faire, checker son intention, refaire les choses pour Allah, moi ça m'a aidé à garder mon niveau d'attention pour mon mari bien plus haut. De me dire, non mais en fait, tu peux pas tout miser sur le fait que t'aimes ton mari, parce que l'être humain, il est trop fluctuant, nos sentiments, ils sont trop fluctuants. Et parfois, et c'est la base d'avoir un amour triangulaire, c'est qu'en fait, notre amour pour Allah prend le relais, en fait, dans cette histoire-là. Et ça nous permet de maintenir un niveau d'exigence qui est supérieur à si on était uniquement dans une relation bidirectionnelle où, quand mon mari, j'ai moins envie, ou quand lui, il a moins envie de faire d'efforts, concrètement, on rentre dans une espèce de cercle vicieux où toi, tu fais moins d'efforts, lui fait moins d'efforts, et pour après repartir sur de bonnes bases, ça peut être compliqué. Voilà pour le premier conseil. Alors évidemment, c'est pas avec un conseil qu'on tient la barque de son mariage. Voilà, avec mon époux, on est sur la première année, on n'a pas d'enfant. Donc concrètement, je suis pas là pour vous faire croire que grâce à ce premier conseil, notre union elle est parfaite, loin de là, ou qu'on a tout compris, ou qu'on est arrivé. Non, on est au tout début du chemin, alhamdoulilah, et puis on demande vraiment à ce fratala de nous faciliter la suite de nos aventures, parce que comme tout le monde, on en a beaucoup, mashallah. Le deuxième conseil que j'ai entendu, c'est « Sois satisfait de ce que tu as ». Qui m'a donné ce conseil ? Là, pour le coup, c'est un conseil que je suis partie glaner sur Internet et qui vient de Baba Ali. Donc Baba Ali, c'est un ex-stand-upper qui est fondateur de Half or Deen. Et c'est Half or Deen, c'est une entreprise qui aide les musulmans à se marier à travers des événements et une plateforme de rencontre éthique qui est basée aux US. Je vous ai parlé de Baba Ali et de son initiative dans l'épisode bonus qui était sorti sur Patreon et que j'ai mis en ligne exceptionnellement en intégralité sur la chaîne du Halal Love. Je crois que c'est mes trois pires galères de célibataire. Donc voilà. Et Baba Ali aujourd'hui, il est vraiment uniquement dans le fait de faire du matchmaking, de faire rencontrer des personnes. Et subhanallah, il fait énormément de conférences. Pour ceux qui sont anglophones, moi je vous encourage vraiment à l'écouter parce qu'il a une histoire très intéressante et il a vraiment le don de savoir la raconter et de savoir extraire les leçons de son histoire. Et l'un des conseils qu'il redonne souvent, c'est que lui, il a l'impression, ça fait plus de 20 ans qu'il est marié, ou bientôt 20 ans qu'il est marié, et franchement, il a l'impression d'être amoureux comme au premier jour, et qu'il est toujours à sa première année de mariage. Et l'une des principales raisons qui fait qu'il a ce sentiment-là, c'est qu'il est satisfait de ce qu'il a. Maintenant, on va se poser la question de c'est quoi être satisfait de ce qu'on a ? Être satisfait de ce qu'on a, ça signifie qu'on remercie régulièrement Allah subhanahu wa ta'ala pour l'époux qu'il nous a donné, j'ai même qu'il nous a confié. Moi, je me dis souvent, quand je vois mon mari, je me dis « Ah, c'est dingue, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé une personne pour moi et il m'a créé pour lui. » Alors, on a d'autres fonctions qu'être l'époux l'un de l'autre, mais quand on se souvient de ça, on se dit « Subhanallah, c'est quand même... extraordinaire. Allah, déjà, il a pris le temps de me créer moi. Et en plus, il m'aime tellement qu'il m'a créé un époux. » Alors, je dis ça, les célibataires, je pense très, 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 très fort à vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde un époux ou une épouse qui vous conviendra et dont vous aurez vraiment ce sentiment-là avec vous. Les personnes qui sont dans des couples où c'est très compliqué, je pense aussi très, 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 très fort à vous. C'est pas du tout une manière de mettre en avant quoi que ce soit, mais je dis juste que dans des couples, en tout cas, où ça va bien, se rappeler de ça, être satisfait de ça, c'est une très bonne chose. Et je dis, en fait, des couples où ça va bien. C'est quoi un couple où ça va bien, finalement ? Un couple où ça va bien, c'est un couple où il n'y a pas de grande violence, il n'y a pas de grandes incompréhensions, c'est des tumultes de la vie qu'on traverse, et parfois on a du mal à revoir le côté positif des choses ou de son mariage, et être satisfait de son époux, de son épouse, en se rappelant ça, être satisfait du fait qu'Allah nous a confier quelqu'un, ça peut vraiment beaucoup, beaucoup aider. Être satisfait, ça signifie qu'on remercie aussi régulièrement son époux ou son épouse pour ce qu'il a fait de bien et pour ce qu'il essaye de faire au mieux. Ça, c'est important aussi de se dire waouh, franchement, mon mari, il a ça, ou ma femme, elle a ça comme qualité, de pouvoir s'en émerveiller, en fait, un peu comme au premier jour, comme disait Baba Ali. Et être satisfait, c'est également faire avec ce qu'on a. L'un des grands conseils que j'ai pu entendre plusieurs fois, je ne l'ai pas précisé en introduction, mais l'idée pour moi là, c'était de vous partager des conseils que vous ne trouverez pas, qui sont peut-être moins disponibles sur Internet. Par exemple, les conseils qu'on entend beaucoup, c'est ne pas trop se confier aux autres, ne pas se comparer aux autres. Ça, c'est un conseil qu'on entend 100 fois, donc je le redis ici. Et pour moi, en fait, c'est un sous-point du fait d'être satisfait de ce qu'on a, pardon, parce qu'en fait, il y a une expression en anglais qui dit que la comparaison, c'est the thief of joy, c'est le voleur de la joie. Et c'est vrai, en fait. Et être satisfait, c'est faire avec ce qu'on a, c'est faire pousser son mariage avec les ustensiles et le terrain qu'Allah nous a donné, et réaliser que encore une fois, comme on dit en anglais, bah, en fait, l'herbe, elle est plus verte là où tu l'as fait pousser, en fait, tout simplement. Être satisfait, c'est aussi garder cette légèreté, c'est ce que je disais, cette légèreté, cette joie, cet enthousiasme pour le mariage et pour son amoureux, son amoureuse. C'est se rappeler que des chaussettes par terre, c'est relou, mais c'est pas dramatique. On peut en parler et on peut s'améliorer. Alors, j'ai pas dit que c'était pas rien, j'ai pas dit que c'était rien, on est d'accord. Mais que remettre les choses un petit peu en perspective, de dire oui, c'est vrai, là, franchement, c'est un peu dur, parce que peut-être que ça se cumule avec d'autres choses, mais prendre un peu justement de recul et se dire Alhamdoulilah, mon époux ou mon épouse a des qualités nettement supérieures à cette chaussette qui traîne ou à ces affaires qui ne sont pas rangées. Et Inch'Allah ta'ala, je vais tenter de me focaliser sur ce point-là. Alors, une dernière chose, c'est que ça va peut-être venir presque pas en contradiction avec ce que je viens de dire, mais plutôt en complément. Être satisfait, ce n'est pas tout passer à l'autre sans lui faire réaliser certaines de ses actions. La satisfaction, elle ne fait pas fi du discernement. Lorsqu'un tort, voire un mal a été commis, il faut le dire. Il ne faut pas laisser passer en se disant que je dois être satisfait, donc je me tais. C'est pas ça, être satisfait. Être satisfait, ce n'est pas non plus tolérer les violences sans rien dire, voire se laisser mourir. Si vous êtes dans ce cas, vraiment, s'il vous plaît, ne restez pas seul. Ne restez pas seul et contactez des personnes compétentes. Moi, je ne suis pas la personne compétente pour répondre à votre souffrance qui est réelle, qui est profonde et qui nécessite une prise en charge par des professionnels. Je le dis parce que j'ai déjà reçu des messages à ce sujet et honnêtement, je ne suis pas compétente. Je n'ai pas, professionnellement parlant, je n'ai pas les outils pour vous aider. Et je le dis aussi, je n'ai pas les outils pour me protéger. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose que quand on contacte une personne, on doit aussi toujours se rappeler on prend sa souffrance et on la redonne à quelqu'un. Mais assurez-vous que la personne en face, elle a les armes aussi pour la gérer parce que cette souffrance-là, elle va impacter celle qui la reçoit aussi. C'est un petit aparté que je fais, mais ça me semblait important de le faire parce que ça fait longtemps que je voulais en parler. Parenthèse fermée. Donc encore une fois, parlez-en à des hommes ou des frères, des hommes pardon, ou des femmes de science, à des médecins. Alors là, je vous demande quand même de prendre vos précautions si vous en parlez avec des professionnels de santé ou des assistantes sociales ou assistants sociaux, parce que notamment si vous avez des enfants, parce que vous pouvez ne pas être à l'abri d'un placement, on a parlé avec voici là. Donc voilà, qu'Allah soit là, vous facilite et vous vienne en aide. Amine. Le troisième conseil que l'on m'a donné, c'est fait et prête attention aux petits riens du quotidien qui font tout. Je répète, fais et prête attention aux petits riens du quotidien qui font tout. Alors, qui m'a donné ce conseil? C'est une très bonne amie à moi qui s'appelle Hélène et que j'embrasse très très fort si elle passe par là, parce qu'elle passe souvent par là. Et je dois dire que depuis mon mariage, je l'ai également énormément entendu de la part de professionnels du mariage et du divorce. Comme je vous l'ai dit, j'ai dit fais et prête attention aux petits riens. Donc, ça signifie deux choses. Faire attention. Faire attention, c'est quoi? C'est de se rappeler qu'en fait, les petits riens du quotidien, effectivement, ça fait tout. Il y a un avocat spécialiste du divorce qui est très connu, qui s'appelle James Sexton, et qui dit qu'en fait, le mariage, ça s'arrête rarement sur un premier et unique grand coup de canif. Non, c'est pas ça. Souvent, c'est pas ça. Hein. Le mariage, c'est plutôt une centaine de petits points, de petits torts qu'on a fait. Et qui, l'un côte à côte, posé l'un côte à côte, ça finit par créer un espèce de trou béant. Voilà. C'est ça la réalité d'un mariage qui se finit, qui se termine. C'est parce que on a trop toléré, il y a eu plusieurs actes manqués, plusieurs actes qui ont blessé, et l'un mis bout à l'autre, ça fait que la distance, ça crée une distance entre les époux, qui est une différence qui est malheureusement irréconciliable. Alors c'est quoi les petits riens auxquels il faut faire attention? Entre autres, la liste est non exhaustive évidemment. Parmi les petits riens qui font tout, il y a les petites phrases blessantes du quotidien. Vous savez ce « Ah, t'es encore fatigué ?» à une femme qui a un bébé de moins de 6 mois, voire moins d'un an. Le « On mange quoi ?» systématiquement. Le « Tu fais jamais rien ?» Ça, c'est une phrase, par contre, que les sœurs, les premières phrases que j'ai dites, on va pas se mentir, c'est souvent des frères qui peuvent dire ça à leurs épouses. Et là, ce truc de « Il fait jamais rien », souvent, c'est on fait une généralité, mais évidemment, il y a des exceptions. Ça peut être des femmes qui le disent souvent à leurs époux parce qu'elles ne se sentent pas aidées, notamment dans les tâches ménagères. Alors que la réalité, c'est que on peut dire ce qu'on veut, mais la différence entre rien et pas souvent, elle existe. Une personne qui fait pas souvent quelque chose et qui fait jamais quelque chose, c'est pas la même chose. Il y a une nuance à laquelle la personne concernée souvent va tenir. Et le fait de pas respecter cette nuance-là, le fait de ne pas l'acknowledge, comme on dit en anglais, eh ben, ça peut vraiment créer des dégâts qui sont considérables sur celui qui l'entend. Mais vraiment, c'est-à-dire que ne vous dites pas « oui, bah, c'est bon, c'est pas grave, oui, bah, c'est quasiment la même chose ». Franchement, c'est pas du tout la même chose parce que derrière, ça peut créer un sentiment qui est terrible et qui s'appelle justement le ressentiment. Et le ressentiment, ça pour le coup, c'est vraiment l'un des pires ennemis du couple. Vraiment, avant votre belle-mère, avant le fait que l'un ou l'autre soit parti voir ailleurs, etc. Le ressentiment, ça c'est vraiment un sentiment auquel il faut faire extrêmement attention. La deuxième chose que j'ai retenue sur laquelle il est bon de faire attention, eh ben, c'est sur le tracas du quotidien. Hein, comme on disait, des vêtements qui traînent par terre, une cuvette qui est mal rabattue, des chaussures qui sont posées à l'extérieur du meuble de chaussures et non à l'intérieur, alors que franchement, le meuble de chaussures est quand même assez visible, les clés mal rangées, etc., etc. Ça, c'est des petits tracas du quotidien qui peuvent vraiment être extrêmement lourds et si ce n'est pas adressé, ça peut poser problème. Ce que je disais précédemment, quand je dis qu'il faut être satisfait, c'est effectivement prendre un peu de recul par rapport à ça, mais on ne va pas complètement le nier. Si on sent qu'on est complètement noyé sous les tâches ménagères, il faut le dire. Si on sent qu'on se sent complètement abandonné par son épouse pour je ne sais quelle raison, il faut le dire. Il ne faut pas toujours se trouver des excuses parce que honnêtement, ces petits riens du quotidien pourront faire beaucoup à la fin en cumulé. Donc toutes ces petites choses, elles sont insidieuses, mais elles peuvent concrètement casser la dynamique du couple. L'un ou l'autre va se sentir plus boniche ou parent de son conjoint. Et encore une fois, ça peut être très dangereux de ne pas dresser ces sujets parce que ça éteint clairement l'amour qu'il y a entre vous. Et encore une fois, surtout, ça fait naître le ressentiment. Vraiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de ce type de sentiment. Puis je vous ai dit, donc il y a le fait de faire attention, le fait de prêter attention. Prêter attention, bah, finalement, c'est presque l'inverse de ce que je viens de dire. Prêter attention, c'est prêter attention au petites attentions. Là, encore une fois, c'est James Sexton qui disait quelque chose de très intéressant. Il disait que ce qui fait qu'un mariage tient, souvent, c'est les petites choses. C'est quoi les petites choses ? Les petites choses, c'est se dire que votre épouse, elle aime bien telle marque de granola. Bah, en fait, vous lui prenez ou vous lui préparez, même, on ne sait jamais. Vous savez que votre époux, il aime bien telle boisson, bah on peut lui préparer. Et pas se dire, oui, bah, ça veut dire quoi ? Moi, je lui prépare sa boisson, oh là là, bah, c'est bon, il a des pieds, il a des jambes, il peut y aller. Oui, bah, évidemment qu'il peut y aller. Mais justement, l'idée, c'est de dire que nous, on y va pour lui, pas parce qu'il n'a pas de jambes, mais parce qu'on a envie de faire plaisir à l'autre. C'est vraiment ces petites choses du quotidien que quelqu'un d'autre ne ferait pas pour vous, en fait. Votre collègue, il ne va pas faire ça. Votre mère, elle ne va pas faire ça, parfois. Quoique les mamans le font beaucoup, machin, là, qu'elle soit à la préserve. Mais on entend ça. Le fait de se dire qu'entre époux, on se réserve des petites choses, des petites attentions qui vont faire toute la différence. Voilà pour les trois conseils que l'on m'a confiés. Et je voulais rajouter à ces trois conseils des petites leçons bonus que j'ai apprises lors de mon mariage. La première leçon que je voulais partager avec vous, c'est que le mariage, c'est un projet à part entière. Et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai réalisée assez tôt, alhamdoulilah, dans mon mariage, car Allah subhanahu wa ta'ala vraiment m'a permis de comprendre assez rapidement. On entend souvent, avant de se marier, qu'il faut faire attention à la routine. Et moi, j'avoue qu'il suis casanière et qui aime les routines, je ne comprenais pas trop bien le mal qu'il y avait à avoir une routine. Sauf qu'en fait, je n'avais pas compris. Il y a des routines et il y a la routine. Et la routine, c'est le fait de mettre son couple un peu en pilote automatique parce que justement, ça roule. Sauf qu'un couple, ça ne se met jamais en pilote automatique. Parce que quand on est en pilote automatique, on risque d'aller droit dans le mur. C'est une réalité. Un couple, c'est comme du lait sur le feu, ça se surveille. Et là, je vais vous citer Esther Perel, qui est une thérapeute et sexologue américaine, et qui a résumé un petit peu cette idée en une phrase, et que je trouve hyper puissante, et donc je me permets de la partager avec vous. Elle disait, si on s'occupait de nos business comme on s'occupe de nos relations, business will be dead. Si on s'occupait de nos business comme on s'occupe de nos relations, il n'y aurait plus de business. Et la réalité, c'est que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Le travail, ça nous prend un temps incroyable, considérable, à tel point qu'on se dit qu'on n'a pas le temps, en fait, pour son couple. Je ne parle même pas de quand on a des enfants, parce que alors là, il y a le travail, plus il y a les enfants. Quand on prend de l'âge, on a les parents aussi qui commencent à être âgés, voire malades, voire très souffrants, et dont il faut s'occuper. Et en fait, toutes ces réalités-là finissent par faire que le couple descend dans la liste des priorités. C'est comme une pile de linge. On est à deux doigts d'accéder à ce linge qui ne demande qu'à être, qu'à être plié. Et en fait, non, on rajoute du linge par-dessus. Et on n'a jamais le temps de s'occuper de cette première pile de linge qui était là vraiment depuis le début et qui semblait vraiment accessible à portée de main. Mais à un moment donné, on a mis tellement de choses par-dessus qu'on ne le voit même plus. Et moi, je sens que le mariage, ça devient un petit peu la dernière roue du carrosse. Et l'intimité, ça devient la dernière roue de la dernière roue. Donc, c'est vraiment... C'est extrêmement compliqué et ça devient extrêmement difficile derrière de retrouver son chemin vers le couple. Donc moi, s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est qu'en fait, le mariage, c'est pas un side project, c'est le projet en fait. Le mariage, c'est pas un trophée que l'on pose dans sa bibliothèque, qu'on époussiette de temps en temps, qu'on montre quand on a des invités pour dire « regardez comme il est beau ». Eh ben non, le mariage, c'est vraiment un trophée qu'on emporte avec nous dans cette folle course qu'est la vie en fait. C'est vraiment ça. Le mariage, c'est un projet. Et donc, comme tout projet, tout business, on se doit d'y investir du temps. Alors, je sais, quand on a des enfants, je sais, parce que j'en entends beaucoup parler autour de moi, quand on a des enfants en bas âge, c'est très compliqué, avec les nuits qui sont très courtes, les bébés aux besoins intenses, le chamboulement hormonal, la reprise du travail pour les papas, etc. etc. Mais même à cette période-là, essayez, je ne dis pas que c'est possible, essayez de voir si vous ne pouvez pas prendre 5-10 minutes pour parler à deux de ce qu'on ressent, pour se redonner du courage, pour se rappeler constamment aussi que, comme toutes les périodes de la vie, cette période-là, elle finira aussi par passer. Mais vraiment, 5-10 minutes où on ne se dit pas elle ou il a bien mangé, elle ou il a bien dormi. Non, là, c'est 5-10 minutes sur vous, en fait. Et peut-être qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala vous permettra de retrouver le chemin vers votre mariage malgré le petit âge de vos enfants pour les personnes concernées à travers ces 5-10 minutes. Donc, comme je le disais, comme tout projet qui nous tient à cœur, il faut investir du temps, il faut investir de l'énergie aussi. De l'énergie, c'est-à-dire que, vous savez, il faut investir des ondes positives dans son mariage et pas donner tout son jus à l'extérieur. Moi, quand j'étais en cabinet d'audit, parce que j'ai bossé 4 ans en cabinet d'audit, sur la dernière année, je me disais constamment, il faut que tu t'en ailles avant qu'il t'ait pris tout ton jus. Parce que c'est des environnements, pour ceux qui n'ont jamais travaillé dans tel environnement, c'est des environnements qui sont extrêmement intenses, c'est des environnements qui te demandent énormément, c'est des environnements qui sont très challengeants, qui t'apportent beaucoup. Hein. On est d'accord, ça va aussi, on ne repart pas complètement vidé. Hein. Et si on reste autant d'années dans ces environnements-là, c'est parce que on a aussi quelque chose en retour, faut pas le nier. Mais en revanche, clairement, c'est eux qui ont le plus à gagner de tout notre temps, toute notre énergie que l'on donne au travail. C'est incroyable l'énergie qu'on peut donner au travail dès lors où on aime ce qu'on fait ou dès lors où on a le sentiment que si on travaille pas, on a raté sa vie. La réalité, c'est que non, on n'a pas à donner toute son énergie au travail, toute sa bonne humeur au travail et revenir à la maison tel un torchon. complètement lessivé. Non. On garde du jus, on donne pas tout aux autres. Le mariage, c'est le couple, c'est une entité qui est importante. C'est un socle sur lequel vous avez construit votre famille pour ceux qui ont des enfants. C'est un socle sur lequel c'est pas que vous avez bâti votre vie, mais ça redevient une composante essentielle de votre vie, vie qui est là pour vous ramener au paradis. Donc non, on donne de l'énergie à son couple, on donne de l'énergie pour trouver des activités à faire, on donne de l'énergie encore une fois pour propager des bonnes ondes dans son foyer. Et puis, comme tout projet, évidemment, on y consacre aussi de l'argent. De l'argent en trouvant des activités à faire à l'extérieur de chez soi, de l'argent pour investir, encore une fois, dans des formations s'il y a besoin, dans de la thérapie de couple s'il y a besoin, dans des livres si on a un petit budget et ça peut tout à fait s'entendre. On n'est pas obligé à chaque fois de partir en thérapie ou de partir en formation. Peut-être que je me tire une balle dans le pied quand je dis ça, mais c'est vrai, en fait, tout le monde n'a pas besoin de se poser devant un thérapeute, tout le monde n'a pas besoin de payer pour une formation. Mais par contre, il faut aller chercher le savoir. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment ma conviction profonde. Et puis aussi, rappelons-nous qu'il y a certaines activités qui ne sont pas payantes. On peut se balader ensemble, on peut aller faire du vélo ensemble dès lors où on a un vélo, on peut marcher, on peut aller à la bibliothèque et bouquiner ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Mais en tout cas, je disais de l'argent parce que parfois, quand on va aller plus loin, oui, il faut avoir une réalité, un budget qui est alloué à son couple et ne pas se faire culpabiliser pour ça parce qu'encore une fois, ça fait partie des composantes essentielles de notre vie une fois qu'on est marié. La deuxième et dernière leçon bonus que j'ai pu apprendre de cette première année de mariage, c'est que le mariage se déploie sur le temps long. Pour ceux qui écoutent Halal Love depuis ses débuts, moi, je posais souvent la question à mes invités, c'est quoi la patience pour toi? Je sais, c'est quoi le mounial? Parce que, pour la petite histoire et pour rappel, je suis d'origine Peul, et que, en Peul, on dit le mounial, en Wolof, on dit le mounial. C'est un terme en Afrique de l'Ouest qu'on entend beaucoup, et le mounial, c'est une sorte de patience, de résilience. Et quand tu te maries, tu entends souvent les plus anciens te dire Deogal, donc le mariage, Deogal communial. Le mariage, c'est la patience. Sauf qu'après, quand tu dis c'est quoi la patience, tu verras. On n'explique pas vraiment pourquoi. Et donc, moi, j'aimais bien poser cette question parce que c'était encore une fois l'une des, l'essence même du podcast, en fait, de comprendre ce qui se passe. Une fois qu'on est marié, une fois qu'on a la porte fermée, parce que nous, on nous a laissé sur « Y vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants », et le livre, il s'est fermé, sauf que ben, moi, j'aimerais relire le tome d'après pour pouvoir bien comprendre. Et moi, quand je posais la question à mes invités, j'ai eu des retours très variés. Il y en a qui me disaient que ben, la patience, tout le monde m'a dit oui, clairement, le mariage, c'est de la patience. Et la patience, ça passe par patienter dans les épreuves, patienter avec le caractère de son époux ou de son épouse. Enfin, voilà, les exemples et les points de vue étaient différents, mais très enrichissants, machin de moi. Après, avant le mariage, ma perception, c'est que la patience, évidemment, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a aucune chance, aucune, pour que vos problématiques, elles se résolvent dans le mois. Ça n'arrivera pas. Quand je me suis mariée, bah, comme beaucoup, hein, on se marie, on se dit « Ah, mais ça, moi, j'aime pas trop. Ah, oulala, ça va pas le faire. » Et vice-versa pour mon époux. Hein, on arrive et on se dit, on voit bien qu'il y a des ajustements à faire. Mais le truc, c'est qu'en fait, on va pas faire... On ne va pas tout faire d'un coup, c'est pas possible parce qu'on risque de blesser la personne, de la heurter, ou nous on risque d'être heurté si la personne elle vient de voir et dit alors vraiment ça par contre ça va pas, je donne des exemples, hein. La manière dont tu manges ça va pas, la manière dont tu dors ça va pas, la manière dont tu parles vraiment faut que tu changes, c'est hyper, c'est pas très encourageant et c'est pas très engageant pour la suite, donc il faut être capable de dire bon j'ai vu plusieurs choses peut-être qui m'allaient pas mais je dois choisir mes combats sinon on va pas s'en sortir, et vraiment je rends grâce à ce partenaire là qui m'a montré très vite que le mariage est adepte du temps long. En fait, le mariage, il est à l'image de la vie, en fait. Personne ne résout des problématiques existentielles en un week-end. On a beau lire des super livres, avoir de super conseils. Ok, d'accord, on les a appris, peut-être, mais après, il faut les implémenter. Et certaines choses nécessitent du temps. Comme le deuil, par exemple. On a beau lire des livres sur le deuil. Ok, très bien, ça donne des outils, c'est intéressant. Mais le deuil ne se départit jamais du temps long. Voilà, le mariage, c'est autre chose, hein, évidemment. C'est pas sur le même ton que le deuil ou la perte d'un proche, pas du tout. Mais le temps fait partie intrinsèquement de la nature du mariage. Et ce qui m'a fait comprendre aussi que le mariage, c'était le temps long, c'est parce que parfois, ben, on a une problématique, on en parle. Et donc, bah, du coup, nous, on a l'impression que c'est OK, parce que l'autre personne, elle a dit OK. Ou nous, on a dit OK. On était persuadés que c'est bon, on avait compris, on avait saisi, qu'on pouvait passer à autre chose. Sauf qu'en fait, eh ben, pas du tout, parce que la réalité, c'est qu'on est moins prêt, finalement, à changer que prévu. Donc, on rétrograde, en fait, un petit peu, et finalement, on revient dans nos travers. Et que, bah, il va falloir que l'autre répète, il va falloir que l'autre patiente, ou que nous, justement, on patiente. C'est ça, accepter que le mariage, c'est intrinsèquement lié au temps long. Et par ailleurs, moi, quand j'écoute des thérapeutes de couple parler en interview, ils évoquent quasiment systématiquement des clients qui ont mis des années, vraiment, à surmonter une ou des difficultés. Et à l'époque où j'étais pas mariée, je me disais, quoi ? 3 ans, 4 ans, 8 ans dans une situation pareille ? Mais moi, je pourrais jamais. La réalité, c'est que, alhamdoulilah, tu peux patienter sur des choses... D'ailleurs, tu vas patienter sur des choses sur lesquelles tu étais persuadé que tu ne le pourrais jamais. Parce qu'en fait, Allah, il peut tout. Et si Allah, il te fait patienter, eh bien, la vérité, c'est que tu vas patienter. Et moi, j'ai le sentiment que quand on est marié, Allah, ce partenaire-là, elle nous fait voir le temps un peu différemment. Les années, elles semblent moins effrayantes. Et surtout, on comprend, ah oui, je comprends en fait... Moi, aujourd'hui, oui, je comprends que certaines problématiques puissent mettre des années. Pourquoi ? Parce que, bah, encore une fois, parfois, on aura d'autres problématiques qui seront plus urgentes à gérer. Et donc, on va aller sur ces problématiques-là pour aller les gérer. Et puis, bah, forcément, la problématique qui nous semblait urgente, impossible de passer outre, bah, en fait, elle va passer au deuxième plan. En revanche, L'idée, c'est de toujours garder dans son périmètre ces problématiques-là qui n'ont pas eu la chance d'être traitées en priorité pour les remettre en priorité dès que la vue elle sera un peu plus dégagée. C'est un peu comme, comme je vous le disais quand je faisais la comparaison avec le mariage et la pile de linge, en fait. On ne peut pas tout le temps le garder en bas de la pile. Ce n'est pas possible. Parfois, il faut savoir dire hey, « stop ». De toute façon, il y aura toujours des choses qui viendront se rajouter sur ça. Mais moi, ce linge-là, il m'importe, en fait. Donc là, on va arrêter. On va arrêter ne serait-ce que 5 minutes parce qu'en fait, sinon, eh ben, on aura toujours quelque chose à faire. Et moi, ça m'apporte, donc je veux le préserver. C'est vraiment quelque chose de conscient et d'actif. C'est en ça qu'on dit aussi que le mariage, c'est un travail, c'est qu'il faut vraiment beaucoup réfléchir et il faut toujours rester sur ses gardes. Alhamdoulilah. Voilà, c'était la seconde et dernière leçon. J'en donne pas plus parce que, concrètement, moi, je suis encore une jeune mariée. Je ne suis plus jeune du tout, mais je suis jeune mariée, donc... C'est important, à mon sens, d'avoir de l'humilité face à cette réalité. J'ai énormément de choses encore à apprendre, mais c'est juste, voilà, c'était plus quelque part pour poser des enseignements, des réflexions que je m'étais faites, mais c'est pas des leçons à prendre au pied de la lettre. Moi, je pense qu'il faut vraiment être humble face au temps, justement, et réaliser à quel point... voilà, moi, aujourd'hui, je pense ça. Peut-être que dans 2 ans, je réfléchirai autrement et qu'à ce moment-là, il me donnera d'autres clés pour pouvoir appréhender la réalité de la vie. C'est vraiment lui qui est le tout-sachant. Nous, on essaye seulement. On essaye et puis on partage des choses, mais je pense que c'est extrêmement important, voire impératif, de se rappeler à chaque fois que nous, on sait très, très, très peu de choses, si ce n'est rien, et lui, vraiment, en comparaison, il sait tout. Voilà. J'espère que cet épisode il vous aura plu. J'ai fait un épisode sur Patreon sur lequel je partage 2 autres conseils supplémentaires. J'ai repris un conseil que j'avais partagé sur Patreon et je l'ai redéveloppé ici différemment. Mais dans l'épisode de Patreon, il y a 2 conseils que je donne, que je partage plutôt, et qui ne sont pas dans cet épisode-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à mon Patreon. Il y aura le lien pour se faire dans le descriptif de l'épisode. Et puis, bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous accorde une belle patience, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala il renforce les couples de sa force et de son amour, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala facilite les célibataires qui souhaitent se marier dans le chemin vers le mariage, et puis qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous aide tous à propager le bon conseil. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu et que vous avez trouvé les conseils intéressants, utiles, ben, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous. C'est important, vraiment, ça permet au podcast de continuer à fleurir et à toucher un nombre de personnes conséquents. Et au-delà du podcast, si encore une fois je parviens à garder mon intention pure, bah ce sera vraiment l'idée, ce sera de propager la parole de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. Je suis Madina, votre hôte et sœur en Allah, et je vous remercie de votre écoute, de votre soutien au quotidien. Halal Love est un podcast façonné avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en témoigner tout autant, je vous offre 3 possibilités qui ont l'élégance de pouvoir se cumuler. La première, laissez le nombre d'étoiles qu'il vous plaira sur Apple Podcasts. Cela aide énormément le podcast à être référencé et n'ayant pas de réseaux sociaux, c'est la seule manière de le rendre visible en ligne, de porter encore plus loin le message d'amour en Allah, Inch'Allah. Deuxième option, vous pouvez soutenir financièrement le podcast en souscrivant à mon Patreon. Pour 5€ par mois, vous aurez accès à un mini-épisode supplémentaire, mais surtout, vous aidez considérablement le podcast à perdurer. Vous valorisez une manière d'aimer qu'Allah agrée. Et Inch'Allah, vous en serez récompensé. Pour plus d'informations, un lien est accessible dans le descriptif de l'épisode. Enfin, dernière option, abonnez-vous à ma newsletter. Une semaine sur 2, je vous partage des réflexions plus personnelles, des ressources sur l'amour ou sur le mariage. Le lien pour vous abonner est également disponible dans le descriptif de l'épisode. Je vous remercie sincèrement pour votre fidélité et votre confiance, et je terminerai en citant notre cher et tendre Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, « Si j'agis bien, soutenez-moi, et si je m'égare, remettez-moi dans le droit chemin. » Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous, et peace and halal love sur vous.